Le plateau qui parle, mercredi 20 novembre. Jacques Pasquier, paysan dans la Vienne et membre de la commission politique agricole commune de la Confédération paysanne. Il a été invité hier après-midi au lycée agricole d'A1 en Creuse par la section creusoise de la Confédération paysanne, deuxième organisation professionnelle des agriculteurs derrière la FNSEA. Actuellement, les primes de la politique agricole commune, la PAC, qui se décide au niveau européen, sont négociées en France. À quels agriculteurs donner combien, en fonction de quoi ? La Confédération paysanne s'inquiète d'une proposition de la FNSEA qui voudrait que les éleveurs qui ont moins de 30 vaches ne touchent aucune prime. C'est sur ce sujet principalement que se mobilise la Confédération paysanne. On écoute Jacques Pasquier, spécialiste de la politique agricole commune dans ce syndicat.
Dans les dispositifs de la politique agricole, il y a des paiements ciblés et des paiements couplés au fait d'avoir certains animaux, et notamment des aides pour les vaches allaitantes, pour les bovins viande. Et dans un groupe de travail récent, la Fédération nationale bovine, qui est une association de producteurs de la FNSEA, a revendiqué que les aides ciblées pour les vaches allaitantes soient réservées aux éleveurs qui détiennent plus de 30 vaches allaitantes. Or, statistiquement, au niveau national, ça veut dire que 50% des éleveurs pourraient être écartés de cette aide-là, puisque environ 50% des éleveurs ont moins de 30 vaches. Une réunion qui a eu lieu cet après-midi au ministère de l'Agriculture, un groupe de travail suivant, dont on m'a rapporté quelques échos, la Fédération nationale bovine et la FNSEA ont porté l'attribution à partir de 15 vaches. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fait la moitié du chemin pour reculer, mais il n'empêche qu'au niveau local et national, ça laissera sur le bord du chemin bon nombre de producteurs. De la même façon, sur les aides couplées aux ovins, pour les brebis, on a aussi un seuil d'accès qui est à négocier aujourd'hui entre 50 et 100 brebis. Ce qui veut dire que les petits et moyens troupeaux de vaches ou de brebis ne seront plus aidés par des aides couplées, et ça c'est quelque chose de purement scandaleux. Parce qu'on nous parle toujours de filières compétitives, et en fait on aurait des filières où les petits pourraient se passer des aides et où les gros, eux, auraient besoin des aides. C'est quelque chose de complètement discriminatoire, complètement absurde dans une logique de... On ne voit pas pourquoi aider les gros et pas les petits.
Pourtant, c'est déjà comme ça. Il y a déjà des seuils, c'est-à-dire qu'avec quelques vaches, on n'a pas de droit à des primes.
Aujourd'hui, pour les vaches allaitantes, le nombre minimum pour avoir des aides, c'est 3 vaches. Et c'est la logique de ce seuil, c'est plutôt de la cohérence administrative. On part du principe que ça ne vaudrait pas le coup de faire un dossier, de remplir des formulaires, de les traiter d'un point de vue administratif pour moins de 3 vaches. Donc là, c'est un élément nouveau. Par contre, en brebis, on a déjà mis un seuil à 50 brebis il y a quelques années. Et de fait, c'est quelque chose que nous, on voudrait voir rebaisser. Ramener à 7 ou 10 brebis, quoi, quelque chose qui soit juste pour avoir une gestion cohérente d'un point de vue administratif, mais pas pour exclure des gens qui sont réellement producteurs, parce que notamment un éleveur qui a 40 brebis va faire peut-être de la vente directe, où il a d'autres productions à côté, mais c'est un producteur qui fournit le marché français, qui fournit de l'alimentation, et à ce titre-là, il est complètement absurde de ne pas l'aider à hauteur de son nombre de brebis, comme celui qui a 500 brebis.
Question qui va peut-être vous paraître bête, il n'y a aucun agriculteur, moyen, petit ou grand, qui vit aujourd'hui en France sans les primes de l'Union européenne. Où c'est absolument nécessaire et fondamental pour les éleveurs d'avoir ces aides-là. C'est-à-dire que l'agriculture, elle est dirigée comme ça.
Alors aujourd'hui, il y a des aides pour 340 000 fermes en France. Le recensement agricole faisait état de 490 000 fermes en 2010. Alors après, dans le recensement, il y a des très petites fermes qui sont parfois à peine dans une activité agricole, mais qui ont quand même été recensées, des gens qui ont un grand jardin et parfois recensées comme activité agricole. Il n'empêche que beaucoup de fermes ne sont pas aidées aujourd'hui, notamment les arboriculteurs, tous ceux qui ont des vergers, la viticulture est très souvent pas aidée, et les maraîchers ne sont pas aidés non plus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'aide directe, ils ne reçoivent pas d'aide de la PAC aujourd'hui. À l'avenir, ils pourront en recevoir, en tout cas pour les arboriculteurs et les maraîchers, mais pas forcément au même montant que les céréaliers ou les éleveurs qui ont des grandes surfaces, puisque toutes ces aides sont liées à la surface. Or, un maraîcher a souvent peu d'hectares, 2, 3 hectares, et on va lui donner des aides à l'hectare sur 2 ou 3 hectares, ce qui ne va pas lui faire une aide aux revenus bien conséquente. Pour nous, il aurait été important de décider, alors il semblerait que les choses ne se fassent pas cette fois-ci, mais des aides significatives pour le maraîchage. Régulièrement, on a des campagnes qui portent sur l'intérêt de consommer 5 fruits et légumes par jour, dans un intérêt alimentaire et sanitaire. Or, dans un non-sens complet, on n'aide pas la production de fruits et légumes frais, alors que ça pourrait permettre de conforter la production sur le territoire et des circuits de vente directs, de proximité, qui permettraient un accès à cette alimentation saine pour la population, où qu'elle soit. Pour revenir sur l'exclusion des éleveurs qui n'ont pas un certain nombre d'animaux, brebis ou vaches, nous, à la Confédération Paysanne, on est favorable à ce que l'on attribue des aides à tous les éleveurs. Et si l'enveloppe n'est pas suffisante, l'enveloppe budgétaire définie nationalement n'est pas suffisante, à ce moment-là, on plafonne le nombre d'animaux par paysan. Et on peut très bien concevoir qu'on donne des aides à la vache allaitante dès le fait d'avoir une ou trois vaches dans un troupeau, mais qu'à partir de la 40e, on donne une aide moins importante que pour les 40 premières, et qu'au-delà de 60, eh bien, on ne donne plus d'aide. Un agriculteur qui aurait plus de 60 vaches allaitantes aurait des aides couplées pour les 60 premières, et n'en aurait pas pour les suivantes. Mais ça aurait au moins l'avantage d'en donner à tout le monde, alors qu'actuellement, on n'en donne pas aux petits, dans ce qui se discute, on n'en donnerait pas aux petits, et on en donnerait de façon illimitée à ceux qui ont des troupeaux conséquents, ce qui est complètement absurde. Ce que l'on veut, c'est vraiment des gens qui rentrent dans des filières de production, c'est-à-dire qui produisent pour fournir à l'industrie agroalimentaire, à des abattoirs organisés ou à des industries de transformation.
Vous dites ce que l'on veut, c'est ce que vous voulez vraiment ?
Quand on met des critères de discrimination comme ceux des critères de contractualisation ou de ratio de productivité, la Fédération nationale ovine veut favoriser l'approvisionnement en matières premières que sont les agneaux pour les abattoirs et pour les industries agroalimentaires. Nous, ce que l'on voudrait défendre et ce que l'on cherche à défendre, c'est des aides qui bénéficient aux éleveurs et qu'on ne les contraigne pas à dépendre par des contrats, à dépendre de filières de production qui vont après décider du prix qu'elles voudront bien les payer, parce qu'une fois qu'on a signé le contrat, on est quand même dépendant de ce contrat. Nous, on veut des aides aux revenus pour le producteur, sans contrepartie qui vont le mettre en difficulté dans une négociation commerciale.
On a entendu sur Radio Assyrie il n'y a pas longtemps un éleveur bovin de l'autre organisation, donc la FDSEA, qui est en concurrence avec des producteurs brésiliens, qui nous parlait de ça, du marché mondial à terme, à long terme. Vous pensez que ça va tenir longtemps, ce système de primes ?
La vision de la FNSEA, notamment sur la viande bovine, où elle se considère en compétition mondiale avec le Brésil ou l'Amérique du Nord, est une absurdité. Nous, Confédération Paysanne, nous voulons, à travers la PAC et à travers l'accompagnement de l'agriculture que l'on met en place, favoriser des productions de qualité, identifiée, et pas faire du bas de gamme. C'est le même problème qu'on a avec l'agriculture de Bretagne aujourd'hui, qui a produit des volailles pour le marché mondial, alors qu'on importe des volailles de qualité en France. On est en train de construire, avec la viande bovine, le même genre d'absurdité. C'est-à-dire qu'on encourage la production de jeunes bovins, qui sont des taurillons élevés comme des cochons ou des volailles dans des cases fermées, alors que ce dont les consommateurs français volent et consomment régulièrement, c'est des bovins herbagés de plus de 24 ou 30 mois, élevés dans les campagnes à partir d'herbes et pas de façon artificielle à base de céréales. On est dans ce conflit, dans cette opposition des deux modèles de production. Un modèle qui vise à produire des bovins de façon relativement artificielle, ce qui est le modèle de la FNSEA, pour être en compétition sur un marché mondial, où on ne sera toujours pas compétitif, quelles que soient les aides que l'on met. Parce qu'effectivement, au Brésil, la main-d'œuvre n'est pas au même prix, la dimension du pays n'est pas la même, donc on ne peut pas être compétitif sur ce marché-là. Le seul moyen de rester présent sur ces productions-là, c'est d'être compétitif en termes de qualité des produits et d'identité des produits. On a des produits que l'on peut tracer, qui répondent à des cahiers des charges, qui ont des qualités de viande très bonnes, puisque nourries à l'herbe, la qualité, notamment l'équilibre en oméga 3 des viandes, comme de toutes les productions animales, quand on est dans un système herbager, on a un meilleur équilibre des oméga 3, oméga 6, enfin toutes ces questions. Au-delà de la qualité gustative, là, on est sur la qualité sanitaire, alimentaire des produits. Or, nous, si on veut exister encore dans quelques années, c'est par ce marché-là, par cette identification de nos produits de qualité, et pas par du bas de gamme qui va chercher à concurrencer le Brésil sur le marché mondial.
Qu'est-ce que vous pensez des jeunes qui s'orientent maintenant ? Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Alors aujourd'hui dans la salle, il y avait une classe de BTS, des jeunes qui sont en fin de parcours de formation. Certains ont pris la parole d'ailleurs en disant qu'ils avaient le projet de s'installer pour l'un l'année prochaine, pour d'autres dans quelques années. C'est réconfortant de voir que, alors qu'il y a un discours ambiant sur l'agriculture qui est complètement morose, l'effet général que donne la communication du syndicalisme majoritaire, c'est qu'on en a marre des contraintes, que le métier n'a pas d'avenir. Voir des jeunes qui se disent prêts à s'installer comme là et qui viennent écouter ce que la réforme leur prépare montre qu'ils croient à l'avenir, et ça c'est rassurant. Par contre, ils n'auront d'avenir que s'ils prennent en compte les attentes de la société. C'est pas en restant arc-bouté sur des positions anciennes, une façon de voir productiviste que l'on avait de l'agriculture il y a encore 20 ans, que l'on pourra vivre dignement. Et dignement, c'est par le salaire et par la fierté de ce que l'on produit. Il faut changer notre façon de produire pour être plus respectueux de l'eau, de l'environnement, des attentes des consommateurs, et puis être plus dans la recherche de valeur ajoutée par des produits de qualité que par produire beaucoup sur des grandes surfaces, parce que ça n'a plus beaucoup d'avenir. Parce qu'effectivement, on a aujourd'hui des aides de la PAC, dont certains veulent réserver l'usage aux plus grosses fermes. Ce système-là, il ne durera pas si on ne rend pas cohérent les aides de la PAC avec les attentes de la société. Après, sur la réforme, ce que je pourrais rajouter sur la réforme en cours de discussion, c'est qu'elle était annoncée comme devant prendre en compte l'emploi et l'élevage. Alors, de fait, les mesures annoncées par le président de la République à Cournon au début octobre vont un peu dans ce sens-là, mais elles sont très en recul par rapport à ce qu'il avait été promis précédemment et surtout très en recul par rapport à ce qu'il était possible de faire. Aujourd'hui, ça fait sur les 6 dernières années agricoles, campagne de production agricole, le revenu des céréaliers a été confortable pendant 5 des 6 dernières années. Celui des éleveurs ou des producteurs de fruits et légumes a été très bas, voire nul certaines années pour bon nombre d'entre eux. La réforme de la PAC actuelle n'est pas à la hauteur de ce constat en termes de revenus et de perspectives d'avenir pour les producteurs. Et c'est là que nous sommes, nous, à la Confédération paysanne, très déçus, parce que effectivement la réforme va un peu dans le bon sens, mais elle est complètement insuffisante par rapport aux enjeux de revenus et de perspectives d'avenir pour l'agriculture dans son ensemble.
Aujourd'hui encore, c'était le plateau qui parle avec Jacques Pasquier, producteur de céréales et d'oléagineux dans la Vienne, qui a été invité hier à A1 en Creuse par la Confédération paysanne à l'occasion de l'Assemblée générale de ce syndicat de paysans pour parler de la politique agricole commune et du changement dans l'attribution des primes. On se retrouve demain à 7h30 pour une nouvelle édition du plateau qui parle. Vous pouvez retrouver ces émissions sur radiovassivière.com.